Tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Bonjour à tous, vous écoutez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. À ce micro, je suis Rosine Munezero et Mamadou Oumpa est avec moi pour la co-présentation. Bonjour Mamadou.
Bonjour Rosine, bonjour à tous. Cette semaine, nous parlons du VIH-SIDA et du mariage. De plus en plus, le test du SIDA fait partie des examens prénuptiaux exigés par les personnes souhaitant se marier.
Dans beaucoup de cas, si l'un des partenaires a le VIH-SIDA, il n'y a pas mariage. Parce que c'est important, on ne peut pas engager une vie à la mort, au nom de l'amour.
Et malgré la séropositivité de certains partenaires et les risques de contamination, certains choisissent quand même de se marier.
Je protège ma femme chaque fois s'il y a besoin de l'engrosser. Nous allons à l'hôpital pour lui donner ces médicaments-là. Je peux faire l'amour sans préservatif. Je suis père de 6 enfants, ils sont tous négatifs.
Peut-on vivre une sexualité normale quand l'un ou les deux partenaires sont séropositifs? Nous avons posé la question à un médecin.
Pour ce type de couple, nous conseillons le plus souvent les consultations continues pour qu'ils aient de moindres risques. C'est pourquoi d'ailleurs nous encourageons les patients de prendre toujours leurs traitements, de les respecter.
Restez à l'écoute de ce programme si vous voulez en savoir davantage. Mais pour commencer, voici l'actualité.
Coup d'œil sur l'actualité.
L'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin.
Bonjour Rosine.
Parlons d'abord de la fièvre de Lassa au moment où une nouvelle flambée de cette maladie fait des morts au Nigeria. On parle de 16 morts depuis le début de l'année. Tout d'abord, c'est quoi la fièvre de Lassa, Firmin?
Rosine, la fièvre de Lassa est une infection virale appartenant à la même famille de virus que celui de Marburg et d'Ebola. Elle tire son nom d'une localité du nord du Nigeria où elle a été identifiée pour la première fois en 1969. C'est une fièvre qui se transmet par l'urine ou les excréments de rongeurs comme les rats. La maladie se transmet aussi lorsqu'une personne bien portante entre en contact avec les liquides biologiques, sang, urine, excréments ou autres sécrétions organiques d'une personne infectée.
Parlons maintenant du bilan de l'épidémie.
Alors, Rosine, la maladie a tué 16 personnes depuis le début de l'année. Du moins, c'est le bilan communiqué par le Centre nigérian de contrôle des épidémies. Selon le rapport publié par ce centre, au 22 janvier, il y avait un total de 172 cas suspects, dont 60 ont été confirmés positifs et 112 négatifs. Le virus a été détecté dans 8 des 37 États du Nigeria. Les autorités nigérianes disent rester vigilants, d'autant plus qu'elles s'entendent à une augmentation des cas durant la saison sèche, entre janvier et avril.
Justement, le Nigeria est l'un des pays où la fièvre de Lassa est endémique.
Tout à fait, Rosine. Il faut rappeler que l'année dernière, les autorités avaient recensé plus de 3500 cas dans le pays et la maladie avait fait 171 morts dans 23 États du Nigeria. Mais il n'y a pas que le Nigeria où la maladie sévit. Elle est aussi endémique dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, notamment au Ghana, en Guinée, au Libéria, au Mali et en Sierra Leone.
Et comment prévenir la maladie? Est-ce qu'il existe un vaccin ou des médicaments?
La prévention de la fièvre de Lassa passe par la promotion d'une bonne hygiène communautaire pour empêcher les rongeurs de pénétrer dans les habitations. Parmi les mesures recommandées par les experts, on peut citer la conservation des céréales et plus généralement des denrées alimentaires dans des contenants résistants aux rongeurs. Les dépôts des ordures loin des habitations, les maintiens de la propriété à l'intérieur de celle-ci. Parlons de vaccins, il n'existe actuellement aucun qui protège contre la fièvre de Lassa. Heureusement, il existe un traitement. Le traitement antiviral à la ribavirine qui est surtout efficace s'il est administré au début de l'évolution clinique de la maladie. C'est pourquoi dès l'apparition des premiers symptômes, Rosine, il faut se faire consulter.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Parlons maintenant de la santé des migrants qui préoccupe l'OMS. Cette agence onusienne en charge de la santé vient de publier un rapport sur la question, Firmin.
Effectivement, l'OMS déplore la prise en charge qui reste inégale pour les nouveaux arrivants en Europe. Selon le pays d'accueil et leur statut, leur accès au système de soins va d'un accès entier à aucun accès, affirme le rapport. Ainsi, dans 15 pays comme l'Autriche, la Turquie ou le Royaume-Uni, les demandeurs d'asile ont accès aux mêmes soins que la population locale, tandis qu'ils n'ont droit qu'aux soins d'urgence en Allemagne ou en Hongrie. Les populations et certains gouvernements réagissent de manière émotive sur le sujet de nouveaux arrivants et de la santé à cause du manque d'informations, a résumé Santino Severoni, responsable du programme Migration et Santé à l'OMS Europe. Selon lui, contrairement à ce qui a pu être avancé, le risque est très faible en termes de transmission des maladies transmissibles entre migrants et réfugiés et la population locale.
Et quels sont les problèmes de santé des migrants les plus courants selon le rapport firme?
Les nouveaux arrivants ont tendance à développer plus de maladies chroniques du fait de l'évolution de leur mode de vie, moins d'activité physique, mauvaise alimentation et des conditions de pauvreté dans lesquelles certains d'entre eux vivent. Leurs enfants sont plus enclins au surpoids et aux maladies psychiques. Certains réfugiés et migrants ont tendance à souffrir de dépression et d'anxiété à cause des situations très angoissantes, de la durée du traitement des demandes d'asile et des conditions socio-économiques défavorables, l'inactivité, la pauvreté, l'isolement.
Merci Firma.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Connaître son statut sérologique est l'une des clés dans la lutte contre le VIH-Sida. Pour certains, ce statut a valeur de test pour la vie en couple. En effet, de nombreux partenaires inscrivent la sérologie VIH comme l'un des examens prénuptiaux indispensables avant le mariage. Dans certains cas, la séropositivité de l'un des partenaires met un terme au projet de mariage, l'autre partenaire ayant peur d'être contaminé ou d'avoir des enfants séropositifs. Peut-on vivre une sexualité normale quand l'un ou les deux partenaires sont séropositifs? Comment réduire les risques de transmission du virus aux enfants? Pour en parler, nous recevons le docteur Philippe Kyunyu. Il est médecin généraliste à Beni, en République démocratique du Congo. Il est au micro de notre correspondant, Erikas Mouissi.
Docteur Philippe Kyunyu, bonjour.
Bonjour.
Avez-vous déjà reçu des couples qui font les tests du VIH ensemble avant ou pendant le mariage?
Bien, merci pour la question. Oui, en fait, nous en avons déjà reçu plusieurs.
Et est-ce que, selon vous, les statistiques sérologiques des compagnons préoccupent vraiment les Congolais qui veulent se marier?
Oui, dans la plupart des cas, les jeunes qui veulent s'engager pour le mariage, ils sont soit envoyés par les églises, soit eux-mêmes pour connaître leur statut sérologique. Ce n'est pas pour dire que c'est tous les couples qui veulent s'engager, mais une grande partie quand même est sensibilisée et est engagée à connaître les statuts sérologiques avant de s'engager dans le mariage.
Et quelles sont, selon vous, les difficultés qui peuvent se poser pour un couple sérodiscordant ou dans lesquels les deux conjoints vivent avec le VIH-Sida?
Le plus grand problème, c'est par rapport aux convictions personnelles. Et que donc, pour un couple qui vient, par exemple, demander les examens prénuptiaux, et que après résultat, vous trouviez qu'il y a un qui est séropositif, le plus grand problème, c'est le choc de recevoir ce message, parce que c'est un résultat qui traumatise, qui déprime un peu. Mais alors, l'essentiel dans ces couples, c'est l'autodétermination, mais aussi l'autoconnaissance. Quand vous vous comprenez vous-même, vous connaissez votre résultat, c'est important de les communiquer à votre partenaire. Et si le partenaire est partant, le plus souvent nous ne voyons pas de problème, parce que nous en avons vu beaucoup de couples qui sont venus, ils sont discordants, et que l'un accepte que j'irai avec mon mari, ça ne dérange pas. Si c'est la femme, si c'est l'homme, je dirais j'irai avec ma femme, ça ne dérange pas. L'essentiel ici, c'est de ne pas se laisser influencer par l'entourage. Et si vous vous croyez, vous vous aimez pour des bons, je ne vois pas pourquoi la séropositivité peut être un problème de ne pas s'unir dans le mariage.
Alors comment vivre sa sexualité et faire des enfants séro-négatifs? alternatif pour ce type de couple?
Pour ce type de couple, nous conseillons le plus souvent les consultations continues avec leur médecin pour qu'ils aient de moindres risques d'avoir des enfants séropositifs. C'est que la science n'explique pas qu'un couple séropositif ait des enfants séronégatifs. C'est pourquoi d'ailleurs nous encourageons les patients séropositifs de prendre toujours leur traitement, de les respecter et de respecter surtout les conseils de médecins qui les suivent.
Y a-t-il des précautions supplémentaires à prendre pendant la grossesse et après les naissances des enfants, des couples dans lesquels l'un ou les deux partenaires sont séropositifs?
Pour les enfants issus des couples discordants, les parents doivent toujours se mettre en tête que les manœuvres de contamination ou les chances, les risques de contamination sont élevés, surtout si la personne séropositive n'est pas sous ARV ou si elle ne respecte pas son traitement. Donc il faut éviter à ce que ces enfants soit à contact beaucoup trop longtemps avec les éléments susceptibles de les contaminer, et que donc tout tourne autour du respect des conseils tels que donnés par le médecin.
Il existe souvent des services de conseils et d'assistance psychologique dans les hôpitaux. Comment ces services peuvent-ils aider les couples qui sont sur le point de se marier et qui redoutent les tests du VIH-SIDA?
C'est d'abord les encourager les personnes à connaître leur sérologie, parce qu'en fait, quand vous vous engagez dans les mariages, c'est pour le bien de vous deux d'abord et le bien de la communauté. Et que donc les services médicaux, mais aussi les psys, ils doivent toujours se mettre à encourager ce couple, c'est-à-dire c'est encourager toute personne à connaître d'abord sa sérologie pour être sûr de soi-même par rapport à cette maladie pandémique.
Alors enfin, quelles peuvent être les stratégies pour les gouvernements et les communautés, je vais dire église, la mairie, famille, pour encourager les jeunes à connaître leur statut avant le mariage?
Pour le gouvernement, je pense que le gouvernement a déjà pris une certaine mesure d'avance par rapport à encourager les jeunes. Il y a des émissions radio qui passent, même à la télévision. Il y a tout un programme de lutte contre les VIH-SIDA. Donc le gouvernement a pris quand même de bonnes initiatives pour encourager la jeunesse, mais aussi la population congolaise à voir les dangers qu'il y a de contracter la maladie à VIH. Alors pour les églises, ici je vais attirer l'attention surtout de certaines églises, parce qu'il y en a certaines qui n'insistent pas sur les tests ou les examens prénuptiaux. Et dans les examens prénuptiaux, il ne sera pas toujours question seulement du test VIH, il y a aussi d'autres maladies qu'il faut dépister chez le couple. Je parlerai à passant de l'électrophorèse, de l'hémoglobine. Donc il faut pas seulement que les églises insistent sur un certain nombre de tests, mais il faut que l'église voie l'âge. Pendant les heures de culte, qu'on donne aux agents sanitaires de sensibiliser la population sur l'impact, mais aussi les méfaits dévastateurs du VIH. Donc les églises doivent aussi continuer à sensibiliser. Je sais qu'il y a certaines églises qui ont à leur sein des programmes de lutte contre le VIH, mais c'est ici l'occasion d'en appeler encore à toutes les autres églises qui se passent de ce test, d'encourager leurs jeunes de se faire dépister. Mais aussi je vais revenir surtout du côté de l'État. Il faut disponibiliser tous les éléments nécessaires par rapport à la prise en charge, mais aussi à la prévention du VIH-SIDA.
Nous remercions le docteur Philippe Kyunyu. Il est médecin généraliste à Beni, en République démocratique du Congo. Il était au micro de notre correspondant, Ericas Mouissi.
Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage.
Pourquoi faut-il faire le test du sida avant le mariage? Quelle serait votre réaction si votre partenaire est séropositif? Nous avons posé ces questions à quelques-uns de nos auditeurs en RDC. Voici leurs réponses recueillies par nos correspondants à Kinshasa et à Lubumbashi.
Bonsoir madame.
Bonsoir.
Est-ce que vous accepteriez d'épouser un partenaire qui est séropositif?
Non.
Pourquoi?
Parce que je vais vous dire ma vie. Je vais trouver quelqu'un d'autre, ça c'est sûr.
Et si par exemple vous êtes dans une relation, vous ne saviez pas qu'il était séropositif, vous tombez amoureuse et puis plus tard vous apprenez qu'il est séropositif, qu'est-ce que vous allez faire?
Là j'ai plus le choix, je me colle à lui. Si je savais bien avant, là je ne veux pas me mettre dans cette relation.
Bonsoir mademoiselle, bonsoir. Accepterez-vous d'épouser un homme qui est séropositif?
Non, non.
Pourquoi?
Parce que dès la minute que j'apprends qu'il est malade, moi ça va me faire peur et je ne voudrais pas non plus être malade. Donc je crois que je vais arrêter cette relation. Si je l'aime et que je suis malade, là je continue avec lui. Mais si je l'aime, je ne suis pas malade, bah, j'arrête.
Et si on inversait les rôles, c'était vous qui étiez séropositive et que votre partenaire était séronégatif, qu'est-ce que vous feriez?
J'aimerais bien qu'il m'aime, mais j'aimerais pas le... enfin, qu'il soit malade, lui contaminé.
Et qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est la décision que vous allez prendre?
Je vais accepter que... enfin, je sais pas, mais je vais le laisser partir, même si ça me fait mal, mais je pourrais accepter qu'il voit d'autres femmes, mais qu'il m'aime aussi, parce que je sais que j'ai envie d'être aimée, je crois bien.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Est-ce que vous accepteriez d'épouser une femme qui est atteinte du VIH/SIDA?
Non, madame, je ne peux pas accepter.
Pourquoi?
Parce que là, le virus VIH/SIDA et je ne peux pas donc accepter une telle femme parce que je risque d'être infectée aussi un jour.
Et l'amour ne peut pas supporter le fait qu'elle soit atteinte?
Bon, quand bien même l'amour, mais aussi cette maladie, elle est tellement dangereuse et je ne peux pas me livrer à cette pratique.
Mais vous pouvez toutefois vous protéger.
Bon, c'est protégé, certes, mais aussi rassurez-vous que ces protections-là, elles ne sont pas bonnes. Quand même, on peut parler de préservatifs et quoi qu'on sort, mais tout ça ne donne plus du tout confiance. Hein. C'est un peu ça.
L'homme et la femme doivent connaître leur statut sérologique. Donc, savoir si l'homme a le VIH/SIDA ou la femme a le VIH/SIDA. Parce que dans beaucoup de cas, si l'un des partenaires a le VIH/SIDA, il n'y a pas mariage. Et il y a certains qui l'acceptent selon leur consentement. Ou bien quand on le fait, on trouve que les deux ont le VIH, ils peuvent décider de se marier. Le VIH/SIDA tue. Je conseille à ceux qui veulent se marier de toujours faire le dépistage. Parce que c'est important. On ne peut pas engager une vie à la mort, au nom de l'amour. Donc je leur donne un conseil, tout au début, de commencer par faire le test de dépistage du VIH/SIDA pour connaître les statuts sérologiques. Si c'est positif pour l'un des partenaires, je conseille d'arrêter, à moins qu'ils donnent leur consentement et disent non, nous voulons continuer. Si c'est positif pour tous les deux, ils peuvent décider de se marier et voir comment ils vont évoluer.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
C'était là quelques réactions d'auditeurs à Kinshasa et Lubumbashi en RDC. Ils nous donnaient leurs avis sur le test du sida avant le mariage. Malgré les risques, certains partenaires acceptent de sceller et de poursuivre leur aventure conjugale. C'est le cas du couple Dianda. Joël est un séropositif qui a épousé une femme séronégative. Comment vivent-ils cette relation? Comment ont-ils fait pour surmonter leur peur? Écoutez le témoignage de Joël. Il est au micro de notre correspondante Béro Matanda.
Monsieur Joël, bonjour.
Bonjour, madame.
Avez-vous informé votre conjoint que vous viviez avec le VIH/SIDA avant le mariage?
Avant le mariage, oui, parce que j'avais connu les rechutes. J'étais obligé que je l'informe au moins de ma santé, mais n'était pas sûr de ce que je lui disais. Comme on s'aimait, je l'avais amené chez le médecin pour que mon prestataire puisse parler avec elle et dépister aussi.
Mais quelle a été sa réaction?
Elle était mécontente, elle était vraiment découragée. Elle me demandait comment maintenant ça va se passer, comment on va évoluer. Moi, je n'avais pas d'arguments. Après la casseline de prestataire, elle s'est ressaisie. Elle a commencé à venir me fortifier, me parler chaque fois. Et d'ailleurs, aussi, j'existe jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à cette femme-là, parce qu'elle m'avait beaucoup aidé. Je ne sais pas où est-ce qu'elle avait trouvé cette façon de réagir. Hein. Elle était devenue très courageuse, elle m'avait fortifié. Et c'est comme ça qu'elle avait fait remonter ma conscience, et puis nous sommes mariés.
Comment faites-vous pour vivre votre sexualité et faire vos enfants malgré les risques?
Pour moi, je dis que les risques soient minimisés avec la charge virale supprimée. Et mais je protège ma femme avec la prise de médicaments qu'on lui prescrit par mon prestataire. Chaque fois, s'il a besoin de l'engrosser, nous allons à l'hôpital. Il y a certains, on appelle ça pré-test. Hein. On lui donne ces médicaments. Il commence à prendre un mois, deux mois. Là, je peux commencer à faire l'amour sans sans préservatif. Je suis père de 6 enfants. Ça fait plus de 17 ans que je suis à côté de ma femme. Il y a des fois, on peut aller sans gants et ça passe. Et après 3-4 mois, il part au CTST. Il trouve que le virus n'est pas dans son corps. Et c'est sûr que je fais un effort de l'épargner parce que vivre avec le virus, c'est pénible. Parce qu'il faut prendre un médicament chaque jour. C'est vraiment... c'est embêtant. Mais on est obligé.
Donc, parmi vos enfants, aucun n'est porteur du virus, c'est ça?
Mes enfants sont tous, ils sont négatifs. Ma première fille a 16 ans et mon bébé, il a 4 mois. J'ai 2 garçons, 4 filles. Ils sont tous négatifs.
Elles qui savent, ils sont au courant de cette situation?
Oui. Moi, je suis informé du VIH. Normalement, je dois aussi apprendre mes enfants à bas âge qu'il existe le VIH. Tous mes enfants savent que moi, je prends les ARV. Pourquoi? Parce que si leur maman n'est pas là, c'est par exemple ma fille, la aînée, c'est elle qui me sert. Le soir, quand il est 19h, parce que je prends mes médicaments chaque fois à 19h, quand il est 19h, par là où se trouvent mes molécules, elle prend, il vient me donner. La fille, la grande fille m'avait demandé, je me dis, papa, pourquoi vous prenez chaque fois ces médicaments? Et j'étais obligé de lui dire non, je suis supporté. Le VIH que j'avais toujours dit, là, moi aussi je suis supporté. Mais papa, comment est-ce que tu avais ce VIH? Elle me dit, ma fille, je ne sais pas. On m'avait dépisté aussi quand j'avais 26 ans. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai pratiquement 46 ans. Donc il y a 20 ans que j'ai eu avec le VIH dans le corps, mais je ne sais pas quand est-ce que j'avais eu. Ma fille était stupéfiée. Mais est-ce que ça en termine? Je prends les médicaments, si c'est à vie, je ne sais pas quand ça va terminer. Donc, ils comprennent au moins que c'est une vie réelle. Il y a même mon garçon qui a pratiquement 10 ans, il a parlé à son enseignant que notre papa s'est un peu élevé, il vit positivement. Et son enseignant était stupéfait, il est venu vite me voir. Je lui ai dit, oui, c'est qu'il t'a gagné. Oui.
Un petit conseil au couple qui sont dans le même cas que vous ou un couple dans lequel les deux partenaires sont porteurs du VIH/SIDA.
Je parle surtout sur les hommes, hein, parce que nous, au moins, les femmes nous acceptent facilement, mais les hommes n'acceptent jamais les femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des sécurités problèmes avec leurs femmes quand ils apprennent que sa femme est zéro positif. Et ils partent se faire tester et ils trouvent qu'il n'est pas porteur du virus. Ils risquent même de rejeter la femme ou bien divorcer. Il y a beaucoup de gens qui stigmatisent leurs femmes dû à leur statut. Mais ce que moi je sais, il est possible de vivre avec le VIH. C'est un problème d'accompagner votre partenaire, de soutenir, soit vraiment vigilant sur son adhérence et l'observance. Si il prend bien ses médicaments, la vie continue. Prenez vos médicaments quotidiennement, chaque jour, respectez le temps, respectez les heures. Vous allez vivre comme tout le monde. Personne ne saura même pas que vous prenez les ARV. Un petit conseil que je peux donner à tout le monde, vraiment, le VIH, c'est une réalité. Bon, ce n'est pas une histoire à imaginer ou bien à dire que c'est la sorcellerie ou bien à dire que c'est dans le monde des ténèbres. Non, c'est une réalité. Quand on m'avait dépisté, j'avais pratiquement 26 ans, donc j'étais encore trop jeune. C'est pour dire que si vous prenez vos ARV quotidiennement, régulièrement, vous respectez votre dose, vous allez vivre comme tout le monde.
Nous remercions Joël Dianda pour son témoignage. Il était au micro de notre correspondante à Kinshasa, Béro Matanda.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Amon Genkap, a répondu à vos questions. Le docteur Genkap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons, en France.
Bonjour docteur, je suis Mervedi Calmer, étudiant à l'université officielle de Semouliki, située à Beni, au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Dans la plupart des cas, les enfants orphelins vivant avec le VIH sont des personnes désarmées moralement. Alors j'aimerais savoir quel comportement l'entourage d'un tel enfant peut-il adopter pour lui donner espoir et pour qu'il ne soit plus stigmatisé.
Ce que je pourrais répondre à Calmer, c'est que les enfants orphelins vivant avec le VIH du sida souffrent déjà cas d'un manque d'amour du fait qu'ils sont orphelins, ils ont perdu un parent et parfois leurs deux parents. Ces enfants-là aussi souffrent d'une maladie qui est le VIH-SIDA, pour laquelle, comme il a si bien dit, ces enfants sont souvent stigmatisés. Ce qui les rend d'ailleurs très vulnérables, et cette vulnérabilité vient du fait qu'ils sont effectivement très souvent désarmés moralement, comme Calmer le constate. Le comportement que l'entourage familial, ou que ce soit l'entourage de la famille d'accueil, parce que parfois ces enfants sont placés dans des familles d'accueil du fait qu'ils sont orphelins et n'ont plus de parents, donc le comportement que l'entourage doit avoir doit être dans un premier temps un comportement affectueux. C'est-à-dire que l'entourage de ces enfants doit leur témoigner de l'amour. Ces enfants étant orphelins ont besoin de notre amour. Ils ont besoin de cet amour-là qu'ils ont perdu de leurs parents biologiques. Ils ont besoin de retrouver cet amour-là à travers notre comportement, à travers notre façon d'agir vis-à-vis d'eux. Ces enfants-là ont aussi besoin que nous puissions écouter leur souffrance parce qu'ils souffrent. Ils souffrent du fait qu'ils sont orphelins, ils souffrent du fait qu'ils se trouvent un tout petit peu malades. Ils ont besoin d'écouter leur souffrance. De ce fait, ils ont besoin de notre protection. Nous devons les protéger contre la stigmatisation pour laquelle ils sont souvent victimes. Nous devons les protéger contre un certain rejet de la société. Nous devons leur protéger contre certaines discriminations dont ils sont victimes dans la société. Enfin, ces enfants-là ont besoin de notre assistance médicale. Nous devons veiller à ce qu'ils puissent suivre, avoir un bon suivi de leur traitement, les inciter, les motiver à prendre le traitement parce que parfois ils sont gagnés par l'abandon. Et nous devons aussi leur apporter un certain soutien psychologique, un soutien psychosocial. Et ceci passe par le fait qu'on doit satisfaire leurs besoins économiques et surtout leurs besoins alimentaires. Ces enfants qui ont besoin d'une bonne nutrition. Et une nutrition pour les enfants est fondamentale. Voilà ce que je pouvais répondre à Calmer par rapport à sa question.
Bonjour docteur, je suis Hamza Bel Hadji, sportif en Nord Kivu dans l'Est de la RDC. J'ai une préoccupation. Quelle espérance de vie a un orphelin enfant qui vit avec le VIH-SIDA quand on sait que l'espérance de vie d'un Congolais c'est de 54 ans? Merci.
Ce que je peux répondre à Hamza, c'est que avec les dernières innovations en matière de traitement du sida, avec notamment le dépistage précoce suivi d'un traitement précoce de toutes les personnes dépistées, le traitement par antirétroviral est assez innovant et est révolutionnaire dans ce sens où il rend la charge virale quasiment indétectable. Et une personne qui est infectée par le virus du sida et qui a une charge virale indétectable est une personne qui est sur le plan de la santé comme une personne qui n'a même pas du tout une infection par le virus du sida. Si cette personne, notamment cet enfant-là, orphelin, bénéficie d'un bon suivi médical associé à une bonne prise en charge psychosociale, l'espérance de vie de cet enfant-là est égale à celui de la population générale. Et il peut même être supérieur à celui de la population générale dans ce sens que, ayant un suivi médical et ayant un suivi psychosocial, ce que ne bénéficie pas la population générale, il aura une tendance même d'ailleurs à vivre en bonne santé beaucoup plus longtemps que des personnes qui sont dans la population générale et qui n'ont aucun suivi. C'est pour ça que je peux répondre que l'espérance de vie d'un enfant qui naît avec le virus du sida peut même être supérieure à celui de la population générale compte tenu de ce suivi médical et psychosocial dont va bénéficier cet enfant-là dès sa naissance. Et dans ce suivi médical, il faut bien comprendre que le traitement antirétroviral devra être pris à vie et il faudra garantir à cet enfant-là une bonne nutrition, une nutrition équilibrée. Il faudra garantir à cet enfant-là un bon soutien psychologique. Il faudra garantir à cet enfant-là d'être bien inséré dans la société afin qu'il n'en souffre pas moralement par rapport à sa maladie. Voilà ce que je pouvais répondre à Hamza qui appelle depuis la RDC.
Si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, voafrique.com et sur nos télévisions partenaires.
C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée au VIH-Sida et le mariage. De plus en plus, le test du VIH-Sida fait partie des examens prénuptiaux exigés par les personnes désirant s'unir dans les liens du mariage. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Philippe Kyuniu, médecin généraliste à Beni en RDC. Il nous a expliqué l'importance de ce test et comment faire lorsque l'un ou les deux partenaires sont séropositifs. Nous avons aussi écouté le témoignage très intéressant de Joël Dianda, un homme séropositif vivant à Kinshasa. Il a épousé une femme séronégative et aucun de leurs enfants n'est contaminé. Nous leur disons merci d'avoir participé à cette émission.
Nous disons également merci à Firmin Koyaweda qui était là avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Un grand merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Béro Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Thierro et de Chang qui étaient à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Munezero et j'étais en compagnie de
Mohamedou Oumfa.
Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car
votre santé, c'est votre avenir.
À très bientôt. C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique. VOA Afrique.